Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes faits maison, enregistrés à distance.
Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel, qui comme moi est un grand amateur de produits bio. Bonjour Daniel.
Bonjour Philibert.
Alors aujourd'hui tu vas être content car justement notre invité est le nouveau président du premier réseau de magasins bio en France. Il s'agit évidemment du groupe Biocoop. Nous sommes aujourd'hui avec Pierrick Deronne. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Alors Pierrick, tu as pris la succession l'année dernière de Claude Gruffat qui a présidé Biocoop pendant plus de 15 ans avant de devenir député européen. On a la chance de bien connaître Claude et il nous avait fait l'honneur en janvier dernier d'être notre invité pour notre épisode numéro 10. C'était à l'époque le format classique. Nous avions l'occasion de revenir avec lui sur l'histoire du groupe Biocoop, ses engagements, sa gouvernance. Donc d'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs qui ne l'ont pas encore fait à écouter cet épisode passionnant. Et aujourd'hui, donc, on va pas s'intéresser parvenir sur ces sujets, mais on va s'intéresser plutôt aux actualités du groupe et notamment l'impact de la crise sur son activité. On va surtout évoquer avec toi, j'espère, l'après-crise. Mais avant de parler de l'avenir, on aimerait d'abord mieux comprendre comment tu as vécu ces deux derniers mois de confinement. Alors, du coup, première question. Comment le groupe s'est organisé pour faire face à la crise des deux derniers mois? Y a-t-il eu différentes phases?
Oui, effectivement, il y a eu différentes phases. La première, ça a été le choc du confinement, et je pense que là on a été logé à la même enseigne que tous les distributeurs alimentaires, c'est-à-dire qu'on est devenu un acteur de service public du jour au lendemain, et il a fallu en mettre en place tout un système de protection pour les salariés, les clients, les gestes barrières. Donc on a appelé ça la Biocoop Solidaire Attitude. Donc sur les trois premières semaines, hein, on a eu un peu de difficulté à avoir des masques et des systèmes de protection, comme tout le monde. Donc il y a eu cette première phase-là, avec un changement de comportement des consommateurs, qui se sont rués sur les produits bruts, notamment, qui ont fait un peu de stock et qui ont un peu déstabilisé la chaîne alimentaire.
Il y a dû avoir des petites ruptures, comme dans la grande distribution, sur certains produits à ce moment-là.
Oui, essentiellement sur la farine, les œufs, la levure, les pâtes. Ouais. Voilà, exactement. Donc on en est sorti de cette phase-là. La deuxième phase a été une phase de stabilisation, avec aussi un peu de solidarité avec les producteurs, en tout cas de trouver des systèmes de solidarité avec la transformation, avec tout le monde de la bio, pour écouler des produits qui n'étaient plus écoulés sur les marchés, notamment de la distribution hors foyer, de la restauration hors foyer.
Et là, ça fait, Pierrick, là, nous sommes déjà à 2 mois, plus ou moins, du début, en fait, du confinement. Nous sommes déjà rentrés dans l'étape numéro 2 de déconfinement. Si on revient en arrière, quel impact sur l'activité des Biocoop? En général, cette période-là, vous avez un chiffre d'affaires qui est supérieur peut-être à celui de l'année dernière, ou finalement, ces différentes phases ont terminé avec un résultat qui est plutôt en équilibre par rapport à l'année dernière?
Effectivement, l'activité a été supérieure à ce qu'elle était avant le confinement et la crise. Biocoop était sur une croissance de 15% juste avant la crise, et on est monté à 25% sur les 2 mois, avec quelques disparités, avec une prime à la proximité. Donc les magasins de centre-ville, d'hyper proximité, notamment à Paris, ont vu leur croissance très élevée sur cette période. Et effectivement, on a vu l'appétence des consommateurs pour la bio dans cette période, et pour Biocoop aussi.
Tous les magasins sont restés ouverts, il n'y a pas eu de problème d'organisation, de personnel qui ont tombé malade ou qui ont eu peur du contact avec le monde, par exemple.
Globalement, tous les magasins sont restés ouverts, à part quelques cas particuliers. Il y a eu quelques arbitrages sur les horaires d'ouverture. Certains ont réduit un peu les horaires, et notamment pour s'adapter à l'absentéisme de certains salariés, qui est monté jusqu'à 30%.
Ouais, quand même.
dans toute la filière Biocop et la filière bio en général, hein, globalement entre 25 et 30% d'absentéisme. Mais ça aussi, ça s'est stabilisé. On n'en est pas sorti, hein, parce que c'est essentiellement des absentéismes pour garde d'enfants ou organisation personnelle. Donc voilà, on est encore dans cette problématique-là, mais c'est stabilisé. On a pu recruter aussi, on a lancé pas mal de recrutements ponctuels. Il y avait des étudiants ou des gens qui avaient besoin et envie de travailler aussi pendant cette période. Donc là, on est plutôt sur une tendance à un retour à la normale, c'est-à-dire qu'on s'organise pour que voilà, les horaires deviennent normaux, que les services traditionnels qui ont pu un peu être impactés, notamment la boulangerie a été assez impactée. Alors on n'a que quelques boulangeries dans le réseau Biocop, hein, des vraies boulangeries artisanales, mais elles ont été assez impactées par la crise, notamment sur la perception de l'hygiène, enfin en tout cas de la protection par les clients.
Donc il y a eu une baisse du chiffre d'affaires dans le rayon boulangerie des Biocop pendant le confinement, oh. Tu veux dire?
Bah, sur la boulangerie artisanale, oui, c'est ouais. pas loin d'être divisé par deux. Par contre, on a pu voir que les consommateurs s'étaient mis à consommer un peu plus de viande. Alors je pense que c'était peut-être un aliment qu'ils consommaient un peu à l'extérieur le midi et donc en mangeaient moins chez eux. Et là, ils se sont remis à cuisiner. Donc les rayons boucherie, eux, par contre, ont vu leur ventre s'accroître.
Justement, Pierrick, c'est un sujet qui nous intéresse particulièrement. En fait, c'est les comportements des consommateurs pendant la crise, pour essayer aussi de voir si ça nous donne des indications par rapport peut-être à des comportements qu'on verra par la suite. Tu parlais donc au début d'une forte demande pour des produits de base comme la farine, les œufs, etc. On évoque maintenant la consommation des viandes. Est-ce qu'il y a d'autres comportements qu'on a attiré ton attention par rapport au comportement d'achat de ces consommateurs-là?
Bon, c'est essentiellement les grands enseignements en termes de qualité. Alors, il y a une recherche du produit brut, effectivement, pour cuisiner. Il y a eu aussi une recherche de bio et de qualité. Alors, bon, chez nous, on est 100% bio, donc évidemment, mais je pense que ça s'est aussi traduit dans les actes d'achat de la distribution généraliste. Et ensuite, on a vu aussi, alors c'est peut-être plus au début, mais tout un axe santé aussi, de prévention santé. On a eu beaucoup de ventes en compléments alimentaires tout au début, qui s'est transformé en vente d'achat d'hygiène. Hein, donc on vend aussi beaucoup de savon. Ouais. Après, le deuxième enseignement, c'est plutôt sur les modalités d'achat. Et là, on a vu le développement même chez Biocop du e-commerce, des livraisons. Mmh. Et donc, on a dû s'adapter. On avait déjà lancé ce e-commerce en fin d'année 2019. Ouais. Et donc, on a pu le développer encore plus pendant cette période.
Donc, vous avez vu une hausse des commandes en ligne de quel pourcentage à peu près par rapport au...
Alors, on partait pas de beaucoup, donc
ouais, c'est récent,
on venait juste de le lancer, ouais. Oui, et il y a une trentaine de magasins qui étaient en test depuis la fin de l'année 2019. Aujourd'hui, on a une cinquantaine et on vise un tiers du réseau d'ici la fin de l'année. Là, du coup, je vais parler de mes magasins à moi, parce que j'ai fait partie des tests, donc le magasin qui est à Annonay. On a atteint 3,5 à 4% du chiffre d'affaires global sur une période très courte, donc c'est plutôt intéressant. Alors je pense qu'on est assez loin des standards
de la distribution
classique, mais pour Biocop c'est déjà assez important.
Et justement, je le dis, hein, le e-commerce, c'est un projet qui a été lancé assez récemment, fin 2019 chez vous, donc on peut dire que Biocop malheureusement était un peu en retard dans ce domaine. Est-ce que tu penses que cette crise justement va confirmer l'importance pour Biocop de développer à l'avenir une offre e-commerce?
Bah, ce qui était important pour Biocop et ce qui l'est pour tout le projet, c'est de garder le lien humain et que ces outils d'innovation, ces outils soient bien au service du progrès. Mmh. Et ça a été une grande préoccupation. Enfin, c'est une grande préoccupation en général, mais notamment dans le cadre du e-commerce. Et c'est pour ça qu'on a mis du temps. Il y a eu beaucoup de débats dans la coopérative entre sociétaires. Ouais. Alors, il y avait les réfractaires, les pros, et puis tout un ventre mou qui se disait, est-ce que mettre en place du click and collect sera toujours au service du projet, au service de la relation directe, des territoires, de la production, etc. Donc on a abouti quand même à l'idée qu'on pouvait être un acteur important aussi sur le numérique et qu'il fallait être présent sur le numérique pour être un acteur de la consommation responsable. Et on a lancé ce modèle-là enfin ce e-commerce dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ça confirme un peu l'état d'esprit qu'on a voulu y mettre, c'est-à-dire que les consommateurs veulent ce service-là, mais toujours au service de la relation, c'est-à-dire qu'on est dans la protection des personnes vulnérables, on est dans un service complémentaire, dans un lien au produit et dans une recherche d'un service numérique, mais toujours à l'atteinte du projet Biocoop.
Et justement, donc du coup, comment le service e-commerce Biocoop se différencie des autres services e-commerce de la grande distribution ou même d'autres acteurs bio pour, comme tu le dis, être cohérent avec les valeurs et cette volonté de lien avec le consommateur?
Alors là, on sera plus sur des logiques de potentiel parce que aujourd'hui notre plateforme opérationnelle, elle est fonctionnelle, elle est efficace. Après, on sera pas les leaders du site et de l'expérience client sur Internet. En tout cas, c'est pas, je pense qu'on n'en a pas les moyens et c'est pas forcément le but. Par contre, on est resté sur une logique de click and collect que les gens viennent chercher en magasin. Certains magasins ont déjà mis en place de la livraison, donc on est quand même dans une proposition avec un lien à un moment donné, on n'est pas sur uniquement de l'ouverture de coffre ou autre. Et après, l'idée est bien d'aller vers une plateforme, en tout cas une logique de consommation responsable, et s'inscrire dans des alliances, des partenariats avec d'autres acteurs qui défendent le consommer moins mais mieux, globalement. Donc voilà.
Et Pierrick, en fait, comme disait Philibert au début, nous avons eu la chance donc d'enregistrer un épisode avec Claude Gruffat en début d'année. Moi, en tant que consommateur, j'achetais déjà de temps en temps chez Biocoop, mais je connaissais pas les coulisses, je connaissais pas l'organisation derrière Biocoop et notamment les fonctionnements en termes de coopératives. Donc, on a appris beaucoup de choses avec Claude et notamment qu'il y a même des producteurs, d'organisations des producteurs qui sont sociétaires de Biocoop. Donc, vous êtes très proche des fournisseurs et des producteurs. Donc, je suppose que tu as une vision un peu plus claire de comment eux, ils vivent cette crise. Est-ce que ça les impacte fortement? Est-ce qu'il y a des filières qui ont été plus ou moins impactées? Est-ce que tu pourrais nous donner un peu ton ressenti par rapport à comment eux passent par cette période-là?
Effectivement, Biocoop a des producteurs au sein de la gouvernance, ça fait partie de l'ADN. Biocoop est un réseau militant et qui a choisi le commerce comme moyen. On a une histoire qui est très tournée produit, donc tournée vers le monde agricole, vers le produit. L'idée était de retrouver des produits bio. Ensuite, on y a mis un cahier des charges plus exigeant au niveau de la saisonnalité, de l'origine, de la relocalisation de l'agriculture. Donc ça, je pense que Claude en a beaucoup parlé.
Je le confirme.
Et l'axe de développement qui nous a permis d'aboutir à un projet, en tout cas sincère, authentique et avec une cohérence assez forte, c'est le modèle coopératif. Donc, et on y viendra certainement après. Je pense que c'est un des grands enseignements pour la suite de la crise, en tout cas la résilience du modèle coopératif. Et cette résilience, elle s'incarne aussi dans cette réponse au monde agricole. Il y a 20 groupements, donc 3200 fermes qui sont intégrées à la gouvernance de Biocoop, qui votent, qui fixent les ambitions de Biocoop et qui participent à la stratégie. Et on a pu voir là aujourd'hui que c'était un atout formidable d'échanges déjà. Donc toutes les semaines, il y a des rendez-vous avec les filières et ensuite de mise en place de programmes spécifiques pour répondre à des besoins des producteurs. Alors au niveau de la production, le monde de la bio a été moins impacté parce que peut-être moins tourné vers l'export, un peu plus tourné vers les filières nationales. On a pu voir quelques difficultés, en tout cas quelques craintes au niveau des produits saisonniers, donc fraises, asperges. Donc là, on a mis en place tout un système de vente avec baisse des marges pour que et de promotion, hein, enfin de promotion au sens publicitaire et pas forcément en termes de promo prix, hein, mais en tout cas de mettre en valeur ces productions et de permettre l'écoulement de ces produits-là. Une chose qui a été intéressante aussi, c'est la question de la viande qui pour elle était vendue beaucoup en restauration collective et notamment la question de l'équilibre matière, c'est-à-dire que il y avait une partie des bêtes qui étaient vendues en distribution et une partie en restauration collective. Et c'est pas la même chose. Donc, c'est pas la même partie de la bête et tout ne se vend pas à tous les endroits. Donc là, l'idée, ça a été de départ de stocker, de congeler et ensuite de trouver d'autres types de débouchés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, il y a eu des échanges aussi entre les filières, alors au sein de Biocoop, mais aussi en dehors, hein, mais entre les filières, notamment lait et viande. La question du, il y a une surproduction de lait, par exemple, en ce moment. Donc Biocoop a mis en avant toute la filière lait pour que écouler le surplus de lait printanier, et aussi de se dire comment on répond, on baisse cette production, on y répond, et donc il a bien fallu échanger avec les filières viande pour tuer les bêtes qui produiraient trop de lait et les écouler dans la filière viande. Voilà, donc il y a eu des interactions aussi entre groupements de producteurs et entre filières.
Et c'est intéressant parce que tu faisais donc référence au modèle coopératif et je pense que pour ceux qui ont écouté l'épisode avec Claude Gruffat, moi je crois beaucoup à ces modèles et je trouve que c'est un modèle qui est très contemporain finalement et qui permet donc une discussion. Ça doit être, je suppose, la gouvernance en interne, ça rajoute une couche de complexité, mais probablement après toutes les discussions qui ont lieu, les résultats qui en découlent, c'est peut-être un résultat qui sert un peu à tout le monde, quoi, ou qui va dans les bons sens. Est-ce que tu crois que ces modèles de coopératives des Biocoop ressortent plus fort de cette crise? Et peut-être c'est un modèle qui pourrait inspirer d'autres sociétés à suivre un chemin similaire?
Je pense que le modèle coopératif est le plus résilient. En tout cas, c'est celui qui... on s'en souvient, en gros, on s'en souvient quand il y a des crises. On se rappelle que il y a un modèle coopératif, que la coopération, avec la coopération, on va plus loin. Ça structure, et en tout cas, ça permet de dépasser les intérêts divergents de court terme. Forcément. En tout cas, dans un monde compétitif et de concurrence, le consommateur, il veut acheter le moins cher possible, et le producteur, il veut vendre le plus cher possible. Et au milieu, il y a un intermédiaire qui s'appelle la distribution, qui veut prendre sa part aussi. Et le fait de s'asseoir autour d'une table, ça nous permet de dépasser ce court-termisme-là qui nous emmène souvent dans le mur. Donc, il peut avoir un intérêt particulier, individuel, à enrichir un propriétaire, des actionnaires, etc. Mais à moyen terme, peut être un peu destructeur. Donc, l'intérêt de la coopération, et en plus, en intégrant ces logiques de commerce équitable, permet de penser les externalités de l'activité et donc d'inscrire dans nos fonctionnements une démarche, un sens, un projet qui dépasse les intérêts de chaque partie prenante et qui est opposable aussi par chaque partie prenante. Et je pense que là, il y a quelque chose à faire. Je pense pas que l'ensemble des entreprises de distribution ou d'agroalimentaire vont devenir des coopératives demain et donc avoir des statuts comme ceux de Biocoop ou devenir des SIC ou des SCOP. Je pense pas et je n'y crois pas trop. Par contre, je suis intéressé par le fait que certains distributeurs aujourd'hui se rappellent à la production française, font des grandes publicités et se rendent compte que oui, effectivement, acheter français, relocalisé, c'est certainement plus cher que d'acheter dans les mers de plastique d'Almeria quand c'est récolté par des Marocains payés au lance-pierre. Donc là, moi, j'ai envie de dire chiche. Et inscrivez-le dans vos statuts, inscrivez-le dans vos textes.
Faites-le dans la durée.
Et faites-en un projet d'entreprise et non pas un coût, une opportunité. Voilà, créer des filières, c'est pas du sourcing de produits. C'est pas de dire j'ai besoin de lait français parce que. Et alors acheter, c'est une des composantes de la création de filières. Ensuite, il y a toute une relation commerciale, une relation dans la durée, un investissement commun. Et ça s'installe que quand c'est partie intégrante du projet. Et puis quand on trouve au bout de la chaîne des consommateurs qui reconnaissent ces externalités positives, qui sont prêts à payer un petit peu plus cher pour valoriser et défendre un projet qui construit plus que uniquement de la consommation.
Et justement, si on parle de l'après-crise de manière plus globale, toi, comment tu vois cette reprise? Quelles leçons tu tires déjà les premières leçons tu tires de cette crise?
Pour moi, cette crise, elle nous montre, elle amplifie, elle accélère des mouvements qu'on pouvait déjà identifier avant. Ouais. C'est-à-dire que c'est logique de circuit court, de bio, de produits de qualité, de retour à à une forme d'essence était déjà une partie intégrante de la réflexion de beaucoup de consommateurs en France, mais dans le monde, je pense. Il y a un vrai questionnement, en tout cas, autour de l'acte d'achat et de l'acte politique qui est l'acte d'achat. Moi, je suis pas surpris de ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette crise met ces sujets-là sur la table. Et ça, c'est par contre, c'est assez nouveau. C'est-à-dire que on voit bien que les sujets de Biocop, pour parler de Biocop, sont sur la table aujourd'hui. Et ça, sont d'actualité. C'est une formidable opportunité d'expression.
Et tu penses que justement dans l'après-crise, on va consommer davantage de produits bio, qu'on va consommer davantage de produits locaux, même si à l'opposé, on peut imaginer aussi qu'avec la crise économique qui commence à pointer son nez, il va y avoir une baisse de pouvoir d'achat. Donc ça peut être peut-être paradoxal avec ce genre de produits. Comment tu vois justement ce paradoxe ?
Je pense qu'il faut réfléchir à comment on arrive à ne pas trop y rentrer dans ce paradoxe. C'est-à-dire que si on s'en remet à l'individu et à l'individualisme, effectivement, on sera dans ce paradoxe-là, et de toute façon, on l'est tous au quotidien. Quand on fait ses courses, on a parfois la casquette de consommateur et parfois la casquette de citoyen, et on fait des arbitrages bien souvent. La crise économique va forcément mettre le prix au centre du sujet pour bon nombre de personnes. Après, je pense que effectivement, individuellement, il y aura des arbitrages aussi sur la valeur créée. Après, tout l'enjeu, c'est un enjeu plus politique générale, et c'est pas forcément la politique liée à nos élus, mais aussi aux entreprises, toutes les personnes et toutes les entreprises qui sont dans le monde public font de la politique d'une certaine manière par les projets qu'ils portent. Et je pense que là, il y a une vraie opportunité à mettre dans le prix les externalités, à valoriser ces externalités. Donc, on va investir des milliards pour relancer l'économie. Pourquoi pas les conditionner à la valeur qui est créée par ces entreprises, et valeur positive, négative, voilà. Pour l'agriculture, il y a toute une réflexion à avoir aussi sur est-ce que l'agriculture, en tout cas l'alimentaire, tout comme la santé, on a pu le voir, est un bien comme les autres ? Est-ce qu'il doit être dans un monde uniquement de compétition mondiale et de concurrence mondiale ? Moi, je suis persuadé que non. Donc, il y a une manière de... Et pas rentrer dans un protectionnisme. Je pense que relocaliser, ça n'est pas manger que local. On ne doit pas opposer les territoires. Il y aura forcément un échelon européen, un échelon français, un échelon ultra-local. Faire pousser de la tomate en Sicile, c'est peut-être plus logique que de la faire pousser dans le nord de la France sous serre chauffée.
Exactement, consommateur
d'énergie. Il y a des terroirs, il y a des territoires. Il faut qu'on apprenne à repenser notre agriculture, et le commerce équitable, selon Biocop, en est un bon exemple. C'est-à-dire qu'on met en place des contrats tripartites qui font la valeur. Ensemble, on construit la valeur et ensuite on la partage. Et aujourd'hui, dans un monde de concurrence, un contrat tripartite n'est pas autorisé au sens pur, parce que ce serait une entente commerciale. Or, si toutes les parties prenantes sont bien autour de la table, il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas la possibilité de s'engager ensemble vers un prix juste.
On espère que les choses vont évoluer vers ça. Si on regarde le point aussi d'un point de vue plus pragmatique pour le groupe Biocop, dans la stratégie de développement à court terme post-crise, est-ce que par exemple tu penses que vous allez avoir un ralentissement ou une accélération des ouvertures de magasins, par exemple ?
Les ouvertures de magasins on met à peu près 18 mois pour ouvrir un magasin, donc ceux qui vont s'ouvrir maintenant sont déjà dans les tuyaux depuis un petit moment. Ce qui ne va pas manquer, je pense que c'est l'intérêt du grand public, puis l'intérêt de certains professionnels pour Biocop. On voit bien beaucoup de salariés qui souhaitent rentrer chez Biocop, et on ne manquera pas de porteurs de projets, je pense, dans les prochaines années pour venir porter le projet de Biocop par l'ouverture d'un magasin. Mais je pense que l'enjeu de Biocop, les grands enseignements de la crise pour Biocop, ils sont de deux ordres. Il y a un ordre qui est d'un ordre de... Comme je le disais, on est un réseau militant qui a pas fait du commerce son cœur de métier. Le commerce, c'était un moyen, et c'est un moyen toujours. Et là, on voit bien aujourd'hui qu'on manque peut-être un peu d'outils, logistique, de circuit d'information et dans la gestion de crise, notamment sur la gestion de pénurie, de rupture, on n'est pas les meilleurs du marché. Et là, on a certainement un gros travail à faire de consolidation de Biocoop. On a beaucoup géré la croissance. Et il y a eu un peu de fuite en avant économique à gérer cette croissance. Et donc, on a besoin de structurer les bases de l'entreprise pour s'améliorer et certainement répondre à une partie de la question du prix. Et après, le deuxième angle, qui est un angle plus projet, on a, à mon avis, à gagner un petit peu en radicalité et à affirmer un peu plus notre projet. Nos sujets sont sur la table, ben, exprimons-les de manière plus ferme, plus forte, et continuons à cultiver nos différences et puis aussi nos renoncements. Quand on arrête l'eau en bouteille plastique, c'est un renoncement au chiffre d'affaires, mais on défend
des valeurs,
un autre modèle de consommation et un autre modèle de société. Et voilà, ça date déjà de 2017 et Biocoop a besoin d'être toujours un peu moteur et leader
sur ça. Et tu parlais de nouveaux projets, justement, je me souviens, j'ai eu la chance de rencontrer Orion Porta, l'ancien directeur général du groupe, qui m'expliquait à l'époque un projet, c'était il y a à peu près un an, d'ouverture de commerce de bouche spécialisée Biocoop en centre-ville, donc par exemple des boulangeries Biocoop, des boucheries Biocoop. J'ai trouvé l'idée super intéressante. Est-ce que c'est toujours d'actualité, ces sujets-là, ces projets-là?
Alors c'est toujours d'actualité le test, enfin en tout cas de continuer à cultiver le bien manger, le gourmand et l'artisanat d'excellence. On a beaucoup de boucheries dans les magasins. On a ouvert une boucherie et puis même moi à Annonay, j'ai ouvert une boulangerie autonome, hein, donc on continue. Pour pas vous le cacher, le concept a encore besoin d'être développé et amélioré. D'accord. En fait, de décrocher cet artisanat des magasins, c'est pas si simple. Ouais. Notre force, elle réside quand même dans le commerce principal. Donc il y a encore à améliorer cette réflexion, mais on n'abandonne surtout pas l'idée de l'artisanat d'excellence. Ouais. Et Biocoop a un rôle vraiment à jouer sur la boucherie, la boulangerie, et pourquoi pas plein d'autres secteurs, poissonnerie, cave. En tout cas, on croit beaucoup dans le développement de Biocoop par le gourmand et par le produit d'excellence.
Et Pierrick, nous approchons donc la fin du podcast et donc dans cette édition spéciale, nous avons une question rituelle à la fin qui est un peu plus perso, qui juste jusqu'au début du déconfinement, c'était comment nos invités vivaient les confinements, mais là on rentre dans une nouvelle étape. Donc comment toi tu as vécu ces déconfinements et qu'est-ce que vous mettez en place chez Biocoop aussi pour faire face à cette nouvelle étape dans laquelle nous rentrons en ces moments?
Alors moi, à titre personnel, le déconfinement, je le vis avec ma famille. J'ai 4 filles, donc il y a eu beaucoup la question de l'école. Mmh. Donc ça nous a pris pas mal de temps et de réflexion de savoir si on devait les mettre à l'école ou pas. Donc on a considéré qu'on pouvait nous encore les garder un peu à la maison. Mmh. Et ensuite, on se déconfine tout doucement. Déconfine tout doucement. Et nous, le gros enjeu dans les magasins, on voit bien, c'est d'arriver à maintenir ces gestes barrières. Alors, c'est un peu tôt encore pour le dire, mais c'est compliqué pour un sociétaire Biocoop de devoir faire la police ou de devoir filtrer, organiser les flux, etc. Et on sent bien que il y a une pression à ce niveau-là. Donc, on en appelle toujours à la responsabilité et globalement, effectivement, elle est présente. Mais l'idée, c'est que ce déconfinement se passe bien et qu'on continue à respecter ces gestes barrières qui sont essentiels pour contenir ou en tout cas accompagner la circulation de ce virus.
Et juste toujours à titre perso, tu nous parlais de ta situation familiale et beaucoup de nos invités, ils ont aussi des enfants et souvent, pour l'instant, ils gardent à la maison et il y a toujours la question de comment gérer les enfants à la maison, comment les occuper. Est-ce que tu as des bons plans enfants à partager avec nos auditeurs?
Les bons plans enfants. C'est dur de les renouveler, hein, ces bons plans enfants.
Je confirme.
Une semaine, ça va. Sur deux mois. Alors nous, elles ont la chance d'être quatre, donc elles s'occupent quand même pas mal. Non, ensuite, c'est vrai qu'on essaie de faire des jeux. Enfin, c'est sûr, des jeux et puis de la cuisine aussi. C'est quand même un bon vecteur de partage et de temps gagné, j'ose dire, si j'ose dire. Même si. Il y a aussi les devoirs qui occupent quand même pas mal, hein. Enfin les devoirs et l'école à la maison.
Super. Pierrick, merci beaucoup pour ton temps. C'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Et bon courage pour la suite du déconfinement et peut-être à très bientôt pour un nouvel épisode.
Merci beaucoup, c'était un plaisir aussi.
Merci beaucoup Pierrick, à très bientôt, au revoir.
Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous.
Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes. Pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com.
À très bientôt.